Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous au fil de la prochaine heure. Avec vous, mais pas seul, puisque dans ce deuxième épisode de notre 11e saison, on retrouve aussi des collaborateurs et on en retrouvera aussi quelques-uns la semaine prochaine. Donc, des gens qui reviennent avec nous, qui continuent de nous accompagner et des concepts que je pense vous appréciez bien de votre côté, que nous aussi on appréciait bien et qu'on a envie de poursuivre. C'est le cas notamment du club de lecture. Et aujourd'hui, justement, c'est soir de club de lecture. Ça veut dire que je suis en compagnie de mes lecteurs en résidence, des libraires, des passionnés également de bandes dessinées qui sont avec nous. Je fais un tour de table de salutations. Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Jérôme Vermette, bonjour.
Salut, bonsoir.
Et on se demande toujours, dire bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle on se trouve. On est dans une heure de transition, alors on va l'assumer. Bien content de vous retrouver et peut-être que les gens auront senti aussi qu'on est dans une ambiance et une atmosphère différente puisque nous sommes ensemble. Et oui.
On se touche presque.
Presque. En respectant évidemment les consignes sanitaires en vigueur.
On se touche.
Et évidemment, c'est un plaisir de vous retrouver autour d'un espace commun plutôt que par le biais du virtuel. Et c'est un plaisir de vous retrouver aussi dans une formule qui a légèrement évolué. Alors, au fil des dernières années, on s'échangeait la responsabilité de trouver la thématique de la soirée et également les albums qui étaient associés à cette thématique. On décide de faire changement pour ce retour en 11e saison. Et donc, il y a un ou quatre qui choisit une thématique et un album, mais chaque lecteur participant va également fournir un album en lien avec la thématique. Alors donc, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de propositions croisées. Et comme on va le voir ce soir pour une première thématique, ça va quand même dans une direction où on explore plusieurs pans, finalement, plusieurs volets de cette approche. Alors, je vous dis la thématique, c'est Marco Duchesne qui l'a choisi. Tu vas nous la présenter tout à l'heure. C'est humour absurde et dérapage. Alors, une thématique qui a amené donc quatre albums. On parle de Tu seras un saumon, mon fils de Shohei Sasaki. Chez Akata, ça c'est la sélection d'Edouard. De Poochie Town, de Jim Woodring à l'association, ça c'est mon choix. Gilles de la Jungle, de Claude Fournier, c'est à la pastèque et c'est le choix de Jérôme, de Claude Cloutier. Et Le génie des alpages de Fmur, et c'est chez Dargaud et c'est la sélection de Marco. Marco Duchesne, je te regarde d'un air sensuel et lancinant en te demandant...
Et j'apprécie beaucoup, tu sais.
J'en ouais. suis certain.
Et s'il y avait une chose qui a manqué dans le monde pendant la pandémie, c'est le regard sensuel et le tien surtout.
En deux hommes d'âge mûr. Tu as choisi évidemment la thématique humour absurde et dérapage. Alors, pourquoi?
En fait, le titre de mon thème que j'avais choisi est « L'humour, c'est absurde de dérapage ». Donc, un intérêt que j'ai pour la littérature humoristique depuis longtemps. Les anglo-saxons, les américains, les anglais, les français. J'adore tout ce qui est littérature humoristique. Et au cinéma, les frères Marx. Et c'est un peu Groucho-Marx qui m'a donné un peu cette idée-là. C'est-à-dire toutes ces répliques dites dans des films et des situations dans lesquelles on fait comme si c'était normal. Et ce goût de l'absurde me vient un peu de là. En BD, c'est la découverte quand j'ai commencé à lire de la BD et que je suis arrivé à Québec. J'ai eu entre les mains un des albums de Fmur qui était Le génie des alpages. Et là, j'ai été servi vraiment le côté absurdité. Toute l'équipe de Fluide Glacial avec Daniel Goussens, avec Edica, avec le long Carmen Cru, son personnage de petite vieille et tout, avec ce désir de raconter quelque chose d'humoristique par le biais de souvent dessins très sérieux qui faisaient une espèce de décalage absurde. Le dérapage, Fmur est contrôlé. Chez Fmur, c'est contrôlé. Le génie des alpages, Fmur travaille surtout sur l'ouverture du scénario et de ses images. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose entre des personnages, mais en background, en, au premier plan, au second plan. Les montagnes peuvent discuter. Les brebis, souvent, vivent des choses et on peut suivre ce qu'elles vivent, les choses qu'elles vivent. Et il y a l'histoire des principales. Donc, il y a cette ouverture-là qui crée cette espèce de dérapage humoristique. Chose que fait Edica, mais lui, c'est dans le scénario où il dérape complètement, il finit jamais ses histoires et tout. Donc, ma préférence, j'ai choisi le Génie des Alpages et les premiers albums. Donc, voilà. C'est pour la raison. Je pense que chez FMUR, ce dérapage-là est beaucoup contrôlé. Et ce qui rend ses histoires beaucoup plus. En fait, moi, ça me fait beaucoup rire.
Et c'est intéressant, dans le fond, tu mentionnais justement que l'absurde et ce qui t'avait inspiré un peu allait aussi du côté des anglo-saxons, du côté européen. Et la sélection qu'on en a faite, je pense qu'on a vu des titres, on va du côté américain, on va du côté québécois, du côté européen, du côté japonais également. Je peux peut-être commencer par le japonais, puis on continue un peu dans la présentation. Édouard Tremblay, t'as choisi « Tu seras un saumon, mon fils ».
Eh bien oui, il faut avouer que de mon côté, j'ai eu, disons, l'embarras du choix, puisque l'humour absurde est un genre qui est très bien maîtrisé au Japon, qui est très mis de l'avant. Même la collection, en fait, dans laquelle est publié « Tu seras un saumon, mon fils », c'est la collection WTF, donc « What the fuck », vous passerez l'expression. Et donc, toute la collection s'oriente justement autour de récits pas possibles, de récits complètement éclaté. Et d'autant plus que, bon, moi aussi, un peu comme tout le monde, hein, j'aime bien l'humour absurde surtout, parce que je trouve que l'absurde va pousser évidemment le processus dans ses derniers retranchements d'une manière tellement forte que bien souvent, il cache derrière lui le drame, il cache derrière lui la critique, il cache derrière lui des choses souvent très pesantes que l'absurdité va justement... Va servir de catharsis ou va faire évoluer de ce côté-là. Mais on a aussi, tu sauras, un saumon, mon fils, qui ne porte pas ses grands débats sociaux, on y reviendra, mais on s'entend que de prime abord, disons que la prémisse de base est complètement éclaté. Donc, un jeune homme qui s'appelle Shion, qui, avec ses amis, sont adeptes d'onanisme sur le bord d'une rivière et qui, justement, ben, un bon jour, laisse aller la purée, hein, si vous me passerez l'expression, ce qui va féconder des œufs de saumon et engendrer un hybride homme-saumon qui viendra un jour demander des comptes à son père. Donc, on peut difficilement trouver plus... saugrenu, plus sans dessus-dessous, plus incrédible que ça. Mais malgré tout, et j'ai bien hâte qu'on en discute, il y a, à mon avis, dans justement « Tu seras un saumon, mon fils », quelques lignes, quelques forces, quelques idées directrices en filigrane qui, à mon avis, portent un petit peu plus loin que juste le pur gros humour gras et simple qu'on pourrait y voir.
Alors, on poursuit le tour de table de présentation. Jérôme Vermette, on va de ton côté. Tu as été vers le Québécois et vers Claude Cloutier avec Gilles de la Jungle.
Oui, tout à fait. Juste avant que je me lance, je voudrais juste faire remarquer qu'il s'en est fallu de peu qu'Edouard dise « quelques fluides en filigrane », mais bon... qui aurait été très approprié.
Oui, j'ai écrit en disant qu'on dit Gilles Lajeune, oui, et non pas Gilles de la Jungle.
J'étais pour le dire, effectivement. Merci, Edouard. Puis j'ai choisi ce titre-là d'autant plus que moi, j'aime pas rire. Fait que ça m'a pris quelque chose de sérieux. Donc, tout le monde qui a lu Gilles Lajeune de Claude Cloutier sait que c'est très sérieux. Il s'agit de regarder les dessins. En fait, quiconque me connaît bien côté BD québécois, c'est à quel point j'ai beaucoup d'affection pour cette bande dessinée-là que je lis et relis régulièrement parce que je m'éclate totalement. Mon idée première, quand je l'ai choisie, c'était d'aller vers Fab Caro sur le coup parce que j'en avais lu beaucoup dans les dernières années. Puis, comme on n'avait pas de choix québécois, puis j'ai été le dernier à choisir mon album, j'ai donc décidé de prendre celui-là que... on pourrait dire qu'il y a des ressemblances avec Fab Caro, mais si je ne me trompe pas, c'est beaucoup plus vieux que Fab, que ce que fait Fab Caro. Là. Donc, on pourrait dire que on a peut-être plus le maître que l'élève ici. Claude Cloutier, il était également, là, pour ceux qui ont déjà lu Crow à une certaine époque, c'était lui qui avait également fait le délirant légende des Jean-Guy, qui aurait pu aussi bien figurer ce soir, selon moi. Donc, Gilles Lajungle, en fait, là, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, en partant, Claude Cloutier a repris pratiquement verbatim, si j'ose dire, les images du photoroman Kimba, qui est un photoroman italien très, très kitsch des années 70 ou 80. Et allez glaner ça sur Google après avoir lu Gilles Lajungle, vous allez voir, c'est carrément les mêmes images. Claude Cloutier a en fait des crayonnés très énergiques par ailleurs, alors que les images de photoroman de Kimba sont figées, puis on voit tout de suite que ça a été fait en Italie et non pas en Afrique, là. Donc, Gilles Lajungle, c'est un pastiche à la fois de Kimba, de Tarzan aussi. Ce qui est très drôle, c'est le décalage dont parlait Marco tantôt quand il parlait de ce que c'est l'absurde. On a là vraiment, selon moi, le meilleur exemple d'un décalage, c'est-à-dire un dessin très sérieux. Semi, là, dans le sens qu'il y a quand même des trucs kitsch, là, comme les animaux qui parlent et tout ça, mais les personnages d'une case à l'autre ne cessent de dire vraiment n'importe quoi tout en restant sérieux, ce qui n'est pas sans rappeler, finalement, un peu justement l'humour peut-être des frères Marx, Monty Python et tout ça, donc vraiment... Exactement, aussi, effectivement, donc vraiment tout ce que pour moi représente l'humour absurde à la base avant d'être carrément juste un humour du loufoque délirant, mais qui en est aussi. Là, je pense à ce que tu nous as fait lire, le génie des alpages, qui, quand je l'ai lu d'ailleurs, m'a rappelé un peu en soi, parfois aussi le concombre masqué, d'autres affaires comme ça. Ouais. Donc voilà, c'était mon choix pour ce soir.
Et on termine avec, de mon côté, donc Jim Woodring avec donc Poochytown. Pourquoi Poochytown? Parce que c'est son dernier, essentiellement, à l'association qui a été publié tout récemment, mais il y en a plusieurs autres avant, je pense 6 ou 7 tomes autour de son personnage de Frank. C'est un personnage qui remonte d'ailleurs au début, vraiment au début du travail de cet auteur-là, je pense dans un presque fanzine qui faisait à une certaine époque, un magazine qui s'appelait Jim, où il avait commencé à créer ce personnage-là. Et le personnage l'a accompagné vraiment au fil des années 80, 90, 2000 et maintenant 2010. Un personnage d'un chat avec un petit côté presque lapin aussi par certains égards, qui habite dans un univers avec des personnages qui reviennent d'album en album, mais les albums entre eux n'ont pas de lien. Woodring a déjà tué à quelques reprises son personnage principal, il revient à l'album d'après, donc c'est pas une série comme telle, plus qu'une suite d'interprétations et de jeux autour de ce personnage-là et autour de l'univers dans lequel il se trouve. Et évidemment, l'univers dans lequel il se trouve, c'est un peu là que je vais chercher le côté absurde de la chose, mais un absurde que j'ai choisi de m'approprier par le biais du surréalisme, j'ai l'impression. Donc, le côté surréaliste, dans le contexte d'un univers qui, pour Woodring, a des règles qui sont quand même relativement claires, mais qui ne sont pas nécessairement facilement perceptibles si on fait simplement feuilleter le récit et en découvrant un peu les séquences, la suite, on a l'impression qu'il y a une large, large improvisation autour de tout ça, mais en même temps, les règles sont là et l'accompagnent, il y a des assises qui sont extrêmement stimulantes. Dans le contexte de Poochytown, donc on se retrouve au départ avec Frank, Popcha et Popcha. Il sort de la maison, il y a un instrument quelconque qui est tombé du ciel. Et là, Frank essaie de jouer les notes. Finalement, ça sort tout croche. Ça fait comme des espèces de trucs un peu glauques. Il y a Popcha qui essaie de souffler dedans. Ça fait la même chose. Et finalement, Popcha souffle dedans parce qu'il y a deux personnages qui s'appellent Popcha. Donc, souffle dedans. Et là, subitement, ça commence à créer un monde qui est magnifique, qui est beau. Alors là, Frank décide de laisser les deux Popcha continuer à bâtir ça, retourne chez lui, se retrouve confronté à un personnage d'homme cochon, Manhog, qui est aussi récurrent dans l'album. Et dans Poochytown, il va avoir vraiment quelque chose qui va être très centré sur la relation antagonistique entre Manhug et Frank, qui vont vivre des aventures ensemble avec comme fil commun, si on peut dire, le monde aussi qu'ils sont en train de créer, les deux Popshots. Alors, et ça nous entraîne, enfin, après ça, je veux dire, à un certain degré, ça vaut plus la peine d'essayer de raconter ce qui se passe, à la limite même de le comprendre, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une bande dessinée muette qui est une glissade, en fait, dans laquelle on plonge, puis qu'on suit page après page. Donc, bref, c'est ma proposition sur la thématique à la nomenclature relativement complexe de Marco.
J'en profite pendant que tu termines, Raymond. En fait, je relancerai directement sur Pucci Town parce que, justement, je sais pas si... parce que j'étais fatigué ou quelque chose, mais en tout cas, j'ai décerné du symbolisme là-dedans, mais à tour de bras. Je veux dire, il y a des clins d'œil au Paradis perdu de John Milton. Il y a des clins d'œil au parcours du prince Siddhartha qui va devenir le Bouddha. Il y a des clins d'œil au voyage dans l'Ouest, au récit du roi singe. Écoute, autant qu'on peut prendre ça, parce qu'évidemment, tu sais, on peut prendre ça vraiment au très premier degré, on se marre et tout. Et je pense que c'est la beauté de la BD, c'est-à-dire qu'on peut la prendre vraiment d'une manière très, très micro. Et ceux suivent la pérégrination de notre personnage, de ses petites aventures absurdes, ou l'approcher justement d'un degré très macro. Et là, comme je dis, moi, j'y ai perçu le symbolisme d'un paquet de réalités. Comme ça, l'homme cochon, il est dans, l'ingratitude de l'être humain par rapport à lui. Même le personnage principal, bon, on a un chat, un lapin, mais il y a même d'ajout de singe à la limite. Je te dis, je sais pas dans quel délire j'étais parti avec tout ça, mais c'est peut-être aussi la beauté, justement. Je veux dire, le récit est absurde, le récit n'a pas de mots, et donc on va y puiser, bien sûr, notre propre symbolisme, notre propre interprétation. Et comme je dis, au départ, je savais pas trop où le récit allait s'en aller, je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas où j'allais aboutir avec tout ça, et j'ai terminé ça avec... J'ai eu l'impression d'avoir presque une expérience, comme on disait, spirituelle. J'ai presque l'impression de lire, en fait, une adaptation en BD de certaines grandes idées, de certains grands textes des religions du monde, c'est pas vous dire.
Ben t'as probablement raison. On partait parce que cette BD-là est plus surréaliste, tu l'as dit toi-même, elle est plus surréaliste que juste absurde. Tu sais, André Breton disait, quand il avait écrit son traité sur le surréalisme, que le surréalisme, c'était souvent deux images qui se frappent, qui s'entrepénètrent l'une l'autre. Puis je trouve que dans cette BD-là, c'est beaucoup ça. Puis on ne sait jamais à quoi s'attendre, justement, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va pénétrer dans l'image, finalement, puis qui va la continuer.
C'est drôle que vous mentionnez ça, l'aspect surréaliste, parce que mon point de départ, c'est Groucho-Marx avec ses répliques qui va. Mais les surréalistes tripaient leur vie les Marx Brothers. Ouais. Dali a écrit un film pour les Marx Brothers, La femme surréaliste. D'ailleurs, ça a été projet de BD qui est sorti récemment. Un type, une espèce de malade mental qui a décidé de trouver le scénario. Il a trouvé le scénario qui était presque fini et il en a fait une BD de ce scénario-là qui, à l'origine, était dédié aux Marx Brothers. Je pense que c'est le changement de la Warner qui ne s'est pas fait, ou la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque. Là, ouais. Ça ne s'est pas fait à cause
studio
de ça.
Système.
Breton et Dali tripaient sur les Marx Brothers.
Ouais, c'est pas vraiment surprenant.
C'est,
hein?
Cet absurde-là, ce décalage de l'absurde, de l'humour qui, en fait, l'absurde, c'est ce décalage-là. En fait, j'ai toujours pensé que c'était la clé de l'insérer dans quelque chose de normal, tu sais, de quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est la différence entre l'humour anglais et américain. Oui. Les Anglais rendent tout à fait normal une situation extraordinaire, et les Américains, eux, rendent extraordinaire un truc du quotidien. Il y a des stand-up, c'est ça qu'ils font.
Oui, tout à fait.
Ça scène, là. Et tu sais, l'humour juif, c'est ça. Là, ouais. Ce que Woody Allen faisait, c'est s'inspirer de Groucho-Marx, puis rendre quelque chose de tout à fait extraordinaire, quelque chose de normal. Donc, c'est ce décalage-là qui fait en sorte que, d'après moi, la magie s'opère de l'humour. Mais bon, le génie des alpages, en tout cas, dans mon sens, si on s'en tient à les œuvres que vous proposez, si on s'en tient à la rationalité, on est foutu, là. On va faire... Ouais. On s'en va où? Pour ce qui est de...
Pucci-Town.
Pour ce qui est de Pucci-Town, je veux dire, si on regarde bien, c'est le, il y a à peu près cette volonté-là de décrire un monde comme le fait le génie des alpages, mais les deux s'inspirent d'Herriman avec Crazy Cat, Coconino World. Mm-hmm. C'est ça. Si on regarde le décor, c'est cette ouverture à la fois des scénarios et à la fois du décor et des images. Okay. Parce que dans les premiers albums, Fmur est en gaufrier, mais à un moment donné, il s'éclate dans
j'aime bien ton parallèle entre Fmur et Poutchitane, mais je resterai sur Poutchitane avant de me rendre, mais le parallèle, je l'aime bien parce que je trouve que dans les deux cas, le décor, l'image en soi de chaque case est très, très vivante, là, en mouvement constamment là, dans ces cas-là. Ouais. Dans le cas de génie des alpages, en plus de ça, les cases sont ouvertes, mais revenir juste un peu à Poutchitane, la différence entre les autres albums de ce soir, je trouve, pour moi, Poutchitane n'est pas tant drôle que juste surréaliste. Il nous pousse à chercher un sens à chacune des cases. Les autres œuvres ne nous poussent pas autant à faire ça. En plus de ça, le dessin de tous les dessins qu'on a eus ce soir, le dessin de l'auteur, c'est Woodring. Woodring est très, très... on pourrait avoir l'impression que le type l'a improvisé, mais pourtant le dessin nous laisse entendre que tout est très, très travaillé. Il y a une attention extrêmement minutieuse à chaque illustration.
On fait juste regarder comment les lignes omniprésentes dans chaque dessin de la BD donnent du mouvement. Je ne sais pas si c'est parce qu'en plus, bon, on la lisait en PDF, en défilant, oui, j'avais l'impression des fois d'avoir presque un fondu, les lignes se mettaient en mouvement.
C'est normal parce qu'au bout du compte, le monde et l'univers est issu d'un instrument musical, donc il y a vraiment une musicalité qui est là. Et éventuellement, ces genres de BD, effectivement, qu'on pourrait ressortir, un peu comme Barney dans Notre Bleu aussi, dont on avait parlé dans des anciens clubs, des bandes dessinées qui réussissent à mettre en image la musique Ubix aussi. Oui, il y en a quelques-uns comme ça où la musicalité transcende, et dans Poutchitane, c'est vraiment dans le mouvement. Et c'est ce qui amène un peu, je trouve, parce que Jérôme dit, ben tu sais, c'est justement, ça a l'air improvisé, mais ça peut pas l'être. Et c'est ça la maîtrise puis la magie, je trouve, de Woodring justement là-dedans, c'est que avec le mouvement, dans le fond, on réussit à créer cette impression-là de structure ou de dérapage contrôlé, si on peut dire. Et aussi parce que, peut-être, où ça vient de distinguer, puis j'ajouterais cette coche-là, au-delà du surréalisme aussi, c'est que, dans le fond, on est constamment, pour moi, en approche de sens dans un univers comme celui-là, parce qu'on n'a pas d'assise par rapport à notre monde. Les bandes dessinées que vous avez prises de votre côté, ils sont quand même ancrés dans certaines conventions existentialistes. T'sais. Dans le fond, un berger, un lycée, des relations familiales, des films d'espionnage, des films d'action. Dans le fond, on est dans des univers qui sont connus, qui sont codifiés, autour desquels, après ça, on s'amuse et on développe et on amène des éléments. Tandis que dans le cas de Woodring, pour moi, c'est qu'il codifie aussi, même littéralement, son univers qui est bâti un peu comme David B. ou d'autres, c'est qui sont bâtis un peu sur des rêves, sur des impressions, sur des sentiments, sur des émotions, sur un mouvement. Et donc, on n'est pas dans la même dynamique de lecture non plus. Puis je pense que c'est là aussi qu'on va chercher justement cette quête de sens ou cette volonté de sens-là, parce que il faut aller chercher des référents, parce que Woodring, de toute façon, pour le créer, on peut avoir l'impression, justement, qu'il est parti de zéro, mais non, il n'est pas parti de zéro. Il a nécessairement été puisé dans son expérience, dans l'expérience culturelle humaine et le reste, pour bâtir ensuite l'univers qu'il nous propose.
Mais dans la même mesure que tu le soulignais d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que pour l'absurde, pour qu'il fonctionne bien, et que ce soit le cas dans Poutchitane, il faut que ton univers réponde à ses propres lois. Que ces lois-là soient complètement éclatées, que ça soit du grand n'importe quoi, c'est pas grave. Mais il faut sentir cette crédibilité-là. Et ce qui m'amène à parler un peu de Tussaurin, un saumon, mon fils, parce que, justement, je veux dire, la prémisse, au-delà de ça, c'est ça, là. On présuppose, je veux dire, que c'est tout, dans le fond, que c'est de la normalité. Je veux dire, on peut féconder un œuf de saumon et ça va donner un homme saumon. Et un jour, ben, comme n'importe quel enfant abandonné, il va venir vous demander des comptes, il va venir vous appeler papa et vous demander qu'est-ce que vous allez faire. On s'entend, là. Je veux dire, on explique ça. J'explique ça à un client. Je veux dire, il est écrasé de rire. Il me dit, tu me racontes complètement n'importe quoi. Il dit, en partant, il va dire, voyons donc, un homme saumon. Tu parles d'une idée qui n'a aucune allure. Dans ce cas-là, je voulais dire, va donc reviser ta mythologie grecque, parce que, de souvenir, et vous pourrez le confirmer, création du Minotaure, voilà, hein, et elle est jouée du côté de la pseudo-science, l'île du docteur Moreau, aller jouer même. Et là, bon, pas pire, t'exagères un peu. Mais bon, je veux dire, regardez la génétique moderne, où on est rendu, à quel point on est en train d'utiliser du bagage génétique d'animaux pour essayer de guérir les humains, pour essayer de... Et donc, tout ça pour dire que, je ne sais pas justifier la pertinence de l'histoire. Là. On s'entend, c'est débile, puis c'est ça le but, puis on se tape les cuisses là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que malgré tout, cet absurde-là, comme n'importe quel autre, répond à ses propres règles et prend ses assises dans quelque chose.
En fait, sur un saumon, mon fils, surtout les prémices qui sont très absurdes, parce que quand tu lis la BD, si mon souvenir est bon, la plupart des gens qui croisent le fameux homme saumon, de toute façon, des réactions normales qu'on aurait si on croisait un jeune homme saumon. Puis, mais moi, je pense qu'en plus de ça, le malaise que les gens ont par rapport à cette belle-là, qui du reste, c'est assez énergique hein, dans sa manière de parler de sa thématique sur l'adolescence, parce que c'est d'abord et avant tout ce dont elle parle, c'est qu'elle prend de pied ferme, excusez-moi, là, s'il n'y a pas de jeu de mots de voulu avec ferme, mais de pied ferme, le sujet de la masturbation, puis elle le met carrément, tu sais, in your face, si tu veux, là, d'une certaine manière. Alors que l'adolescence, c'est un peu cette folie-là, tu sais. Puis cette promesse-là, moi, je pense qu'elle met les gens mal à l'aise, mais la manière dont ils traitent, c'est pas tant trash que over the top, tu sais.
C'est tout à fait ce qu'Edouard, et ce que tu dis aussi, c'est dans le sens, effectivement, là, dès que tu acceptes que l'œuvre, tu vas accepter que c'est une œuvre à part entière, mais ce qu'il dit et ce qu'il crée, ben c'est la vérité.
Ouais.
C'est la vérité, tu sais. Je veux dire, tu seras un saumon, mon fils, tu le prends, tu t'acceptes son univers et bingo. Et là, ça peut être drôle. Parce que dans cet univers-là, c'est là l'absurde est là, mais c'est ça qui est drôle. Alors, c'est pas drôle si tu fais non, ça se peut pas. Non, mais. Alors, tu vas lire autre chose, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tu sais, à un moment donné, tu conseilles des clients, puis à un moment donné, tu expliques, tu sais, j'explique le génie de Zaltan, je dis, ça n'a pas l'air drôle. Je vais te proposer d'autres choses. Fait que là, on va ailleurs. Mais c'est ça, là. Accepte le fait que, je sais pas, moi, on peut féconder une rivière et en sortir un homme saumon. Et, tu sais, dans le génie des alpages, des brebis discutent et il y a une magnifique scène dans le génie des alpages où il se passe une histoire en premier plan avec le chien, le berger, les moutons sont en train de jaser et derrière les montagnes, ces fameux alpages, se lève une espèce de génie, mais plus une créature qui est immense, qui s'étire et qui vit. Et là, une autre créature. Et là, tu suis l'histoire, mais en même temps, il se passe un combat derrière dans ces montagnes, dans ces alpages. Là, OK! Et là, la BD devient comme une espèce de film où tu essaies de watcher les images, tu sais. Tu essaies de surveiller ce qui se passe en arrière, plan à plan. Pourtant, c'est une BD, tu as juste à revenir sur le dessin. Non, tu es comme pressé de vouloir de rien. Bref, c'est de lâcher prise. Et c'est ce qui est difficile dans l'absurde, je pense. C'est ce qui est difficile. C'est constamment une attaque au rationnel. Puis même, tu sais, on a tous beaucoup d'humour et on aime tous rire et on aime tous en faire. Mais c'est quand même à chaque fois que c'est absurde, c'est une attaque. Là. Il y a une espèce de la petite switch qui fait « Ah ouais, OK, non, c'est drôle.
» Et Marco, en fait, tu mets évidemment un point intéressant justement sur le référent et le reste, mais en même temps, dans l'absolu, si on regarde « Tu seras un saumon, mon fils », au-delà du personnage principal, ça reste un récit qui, si on enlevait le saumon et toute l'histoire autour du saumon et que c'était un autre type de personnage, le récit serait tout simplement pas absurde, serait ancré dans le réel. C'est qu'on intègre un élément absurde qui crée comme un certain décalage, si on peut dire, mais autour duquel, dans le fond, on bâtit un récit sur l'acceptation. Dans le fond, on a quand même un jeune adolescent qui est déplacé de son contexte social, qui se retrouve dans une famille dans laquelle il se sent un peu exclu, qui se retrouve dans un cadre scolaire duquel il se sent un peu exclu, et on a, au bout du compte, une histoire où il va se bâtir une confiance, où il va se bâtir un réseau, où il va se trouver sa famille, entre guillemets, aussi à travers tout ça. Donc, ça devient quand même assez... en poussant un peu la logique, un coming-of-age story aussi à certains égards, mais avec un saumon.
Ben, tout à fait, tout à fait. Et comme je dis, et quand je disais que justement, entre l'absurde et le drame, là, il y a juste un pas, je veux dire, c'est exactement ce que Raymond disait. Enlever le saumon, remplacer ça par un enfant qui cherche désespérément son père, qui veut être adapté. L'autre est jeune, il a eu l'enfant, je sais pas, à 17, 18 ans, il veut pas prendre ses responsabilités. Je veux dire, on pourrait faire un drame social de loyauté filiale, d'acceptation, de trucs comme ça avec
mais
tout
y,
ça.
Mais il y a une scène, non, attends un peu par exemple, c'est là que je t'arrête, il y a une scène qui ne pourrait pas avoir lieu si on prenait un enfant normal. Puis celle-là, ça, c'est peut-être le côté que je trouve savoureux, en quelque sorte, sur un saumon, en fait, c'est que l'auteur amène son idée vraiment toujours dans les sphères les plus over the top que tu peux pas. C'est quand le jeune saumon découvre la pornographie. Ben là, je veux pas rien spoiler, mais je peux vous dire que l'auteur va assez loin avec cette idée.
Non. Mais encore une fois, on reste dans le coming of age, on reste dans les réalités adolescentes. Encore une fois, on changerait le saumon, on mettrait un jeune gars.
En fait, c'est l'équivalent dans la culture vernaculaire américaine de la tarte aux pommes d'American Pie. Oui. C'est ce type de scène-là, où on a découvert du sexe dans le ridicule, mais justement adapté à la façon de frayer et de se reproduire d'un saumon. Donc, on reste dans la logique de l'espèce et le saumon reste un saumon avec un comportement physiologique de saumon aussi. Et ce qui amène, en fait, ce qui crée l'absurde dans cette situation-là, qui aurait pu être simplement drôle ou ridicule, selon, justement, le type de personnage qu'on aurait retrouvé dans ce contexte-là.
Dans le respect des lois, justement, du récit, dans la cohérence qu'il va installer, tu sais. Si on regarde, ben, tu sais, Gilles la Jungle, je veux dire, cette espèce de parce qu'on parle encore une fois, tu sais, de décalage et tout, là, je veux dire, on a un cas absolument splendide où, justement, l'image et ce qui se dit se déroule complètement en parallèle tout le long et sans se croiser. Mais en même temps, encore une fois, je veux dire, cette espèce de satire-là, du pulp, bon, des romans de guerre, de l'exagération qui était, tu sais, comme super poussé et tout, reste que, c'est, à mon avis, et j'y reviendrai, mais reste, c'est le reflet d'une époque. On est dans les années 70, on est dans les années 80. La BD, mondialement, est en train de se transformer. Mm-hmm. Parce que là, la première génération des jeunes lecteurs sont devenus adultes. Eux veulent faire de la BD pour les adultes. Et donc, on arrive où? On arrive, justement, on arrive à Metal Hurlant. On arrive à des gars comme Yoshiharu Tsugi, des choses comme ça au Japon, et au fluide glacial. Et au Québec, qu'est-ce qui a été notre porteur? Ben, l'humour absurde, parce que c'est dans notre tradition. Ouais. Et donc, là, c'est Michel Risk, c'est Red Ketchup, c'est
la gang de crocs, en fait.
La gang de crocs, mais qui montre, justement, ici, encore une fois, qui modernise, mais qui amène notre BD du côté des adultes, là. Parce qu'on s'entend que ces trucs-là, justement, puis Michel Risk, puis Red Ketchup, c'est pas sentiment d'un enfant, là.
Bon, quoi qu'il va rire, c'est sûr, là, mais... mais, tu sais, Gilles la Jungle, là, justement, en le lisant pour le club de lecture, je me disais, bon, moi, je trouve ça très drôle. Tu sais, ce concept d'humour-là, là, de sérieux, puis ça me rappelait un peu là, comment j'avais rigolé en lisant aussi « Si l'amour, c'était timide ». Fait que, OK, exactement le même concept d'une certaine manière, pas le même genre d'histoire.
C'est
là.
Ça. Daniel Goossens fonctionne aussi comme ça. Tu sais, Fab Caro, il n'a rien inventé.
Non, c'est ça.
C'était génial, son truc, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Exactement.
Tu sais, les origines, c'est plus glacial avec, entre autres, Daniel Goossens. Je reviens toujours à Daniel Goossens parce que, t'sais, lui, son dessin est réaliste à un moment donné. L'encyclopédie des bébés, c'est quelque chose. Là, son dessin hyper réaliste avec des bébés qui se comportent comme des humains et qui demandent des affaires d'adultes, c'est-à-dire pas des humains, mais des adultes.
Ouais.
T'sais, c'est des grosses faffes de bébés qui viennent chercher à l'épicerie des trucs. Et c'est comme si c'était normal. T'sais, on revient au décalage. Là, c'est vraiment ça. Et Gilles Lajungle, Cloutier, ça a toujours été ça.
Ouais.
Son truc des Jean-Guy... Bon,
mais là, on est quelque chose d'autre que Talman, par exemple.
Oui, mais tu sais, les Jean-Guy, le dessin était sérieux, mais son personnage, bon, à la limite... Mais là...
Dans une longueuille préhistorique, d'ailleurs.
Ouais. Et là, Gilles Lajungle, on embarque dans un dessin tiré de photos.
Oui, c'est ça.
T'sais, déjà, là, ça ancre dans la réalité, puis dans une réalité où... On se prenait au sérieux quand on faisait l'histoire de Tarzan,
Kimba, oui. En fait, le photoroman, en fait, c'est basé sur le photoroman Kimba. Photoroman, c'était fort apprécié des Italiens. C'est d'ailleurs, je pense, eux autres qui ont inventé ça. Là. Allez googler Kimba, le roi de la jungle. Là, vous allez retracer carrément certaines images. En leur lisant, un truc que j'ai trouvé cool, dans les lisant Claude Cloutier, Gilles la jungle, moi, j'avais caché que j'aime beaucoup le cinéma de genre italien. On s'aperçoit finalement que en même temps, il fonctionne comme le gel de la jungle peut fonctionner comme une critique de ce qui est un peu absurde dans le cinéma italien, c'est-à-dire des trucs qui sont filmés dans un pays qui est clairement pas celui où c'est supposé se passer. J'ai juste à penser d'ailleurs à quel point il y a des gens qui ont de la misère à écouter des Western Spaghetti parce que c'est pas le Monument Valley, tu sais. Ou puis évidemment, ben la manière dont les femmes sont traitées là-dedans, là, juste à revoir dans la jungle, Jane est toujours en bikini, même si son père lui est tout habillé, puis des choses comme ça. Donc puis je me disais, bon, comment, parce que c'est quelque chose de vieux également, j'ai la jungle, comment le traitement des Noirs va passer, mais c'est pas si mal. Manifestement, Claude Cloutier voulait se moquer un peu du racisme, je pense, des Italiens, en les reprenant, mais on voit même des Noirs porter des boucliers avec des croix gammées. C'est quand même pas rien, ça, comme absurdité, là.
Mais tu sais, ça, c'est drôle, parce que tout cet humour-là absurde fait passer des trucs, puis là, on se dit, est-ce que ça passerait, tu sais? Exemple, le génie d'Alpage, je vais être obligé de le brûler, l'album, après. Oui, il y a cette fameuse histoire avec l'Autochtone. Et c'est très drôle. Je vais devoir me réconcilier avec les Autochtones après, là, sur Internet, en disant, voici ce que vous devriez lire, mais pas ça. Mais l'histoire est très drôle, c'est-à-dire un géant, traverse les alpages pendant que les brebis disent, ah oui, on les connaît, ils ne rient jamais, ceux-là, et tout, pendant que le chien de berger est en train de conter une blague. Alors, plus ça avance, l'Indien avance, se maquille, et les brebis, ces gens-là ne rient jamais, patate, blablabla. Et t'as l'histoire du chien de berger qui compte au berger. Et à la toute fin, t'as la dernière case où le punch tombe de la blague du berger, et l'Indien rit aux éclats. Voilà. C'est, tu sais, au-delà de ça, c'est comme, oui, les préjugés, et non, tu sais, il y a quelque chose de, je sais pas.
En fait, c'est d'amener le gag ailleurs ou que tu l'aurais imaginé. Dans le fond, tu n'aurais pas nécessairement pensé à cette chute-là. Et si on reste un peu âgé de la jungle, c'est un peu ça aussi. Même tout l'album est en décalage dans la mesure où il y a de l'action qui se passe par le biais du visuel, mais ce qui est perçu par les personnages et ce qui est rendu par les dialogues n'est pas nécessairement connecté avec ce qui se passe au bout du compte. Et pour moi, c'est ce qui fait que c'est hilarant à lire et à découvrir, parce que dans le fond, il y a toujours un pas de recul. On ne sait pas exactement dans quel genre de récit les personnages se trouvent par moment. Je trouve que c'est là-dedans aussi qu'on va beaucoup chercher l'absurde dans la relation entre les mots, l'image, entre l'histoire et ce qui est dit, au bout du compte, et l'histoire elle-même, finalement, qui évolue sans évoluer, ou qui finalement, on nous construisait quelque chose qui allait s'en venir, que finalement on détruit en une réplique, parce que, ben, finalement, c'était pas si important que ça. Il y a ce jeu-là qui est extrêmement satisfaisant et qui rend Cloutier extrêmement agréable à lire, et au-delà, justement, peut-être de quelques considérations qu'on pourrait avoir avec certains personnages, on dit, ben OK, ça date quand même de son époque, mais sinon, effectivement, tu prendrais Cloutier, tu le ressortes, ben, fait comme la pastèque l'a ressorti d'ailleurs, et quelqu'un qui a lu Zai 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 ou Fab Caro, n'importe lequel, et qui ne connaît pas, par un détour de circonstances, Cloutier, on peut lui mettre dans les mains, il va retrouver le même genre d'humour, avec la même maîtrise de ce type d'humour-là aussi. Et ça, dans les mots et dans l'image, ça n'a pas vieilli, au bout du compte. Ah, c'est vivant. Et donc, ça a très bien vieilli sur ces aspects-là, sur l'essentiel. Somme toute, à part peut-être deux cases, là, donc c'est trois fois rien. Là.
Et qui pose justement la beauté de la variété de cet humour absurde-là, parce qu'encore une fois, si on le met en parallèle avec Pouchitan, c'est le fait qu'il n'y ait pas de texte, qu'on va aller chercher l'humour, qu'on va aller chercher l'interprétation, qu'on va aller chercher... Alors que là... Le texte est essentiel parce que tu peux pas créer le décalage juste avec ton image, parce que tu vas te ramasser avec juste ton roman photo. Et là, c'est l'essence même de la mésinterprétation qui va aller jouer dans tout ça. Et même, je veux dire, dans le génie des alpages, dans Fmur, ben, on est en...
Parce qu'on va parler un peu du génie des alpages. On n'en a pas vraiment parlé à date.
Non, mais c'est ça. Mais tu vois, justement, j'y arrivais.
Qui l'a cru?
J'ai tenté une transition, évidemment. Juste été interrompu. Mais je vais lâcher les parties passées parce que je suis pas très bon. Mais je veux dire, encore une fois, c'est qu'on a on a tout ce qui se passe au premier plan. Je veux dire, une dynamique, somme toute, de montagne, de berger, de bon, au-delà de ça. Mais en parallèle de ça, ce qui se discute, ce qui passe encore une fois en sous-main et tout. Je sais pas si probablement j'étais dans des délires mystiques quand j'ai travaillé sur ce club de lecture-là, je sais pas trop, mais je voyais encore une fois une dynamique, je veux dire, c'est Dieu et les hommes. Je veux dire, les brebis, c'est les hommes, ils sont autogérés parce qu'elles lâchent Dieu. Dans le troisième album, le berger disparaît, c'est Dieu qui est remplacé par la raison, par un autre berger qui correspond plus au mouton. Vous avez le mouton noir qui est là, mais c'est Lucifer, qui est le chef, mais pas le chef. Tu sais, je veux dire, le chien qui est l'espèce de l'incarnation d'à peu près tous les prophètes que t'as, qui est toujours en parabole, qui est toujours en joke, qui est toujours en interprétation. Le sphinx, le lion de Juda. Écoutez,
là, moi, j'étais...
Non, non, mais c'était... J'étais parti bien raide là-dedans. Là. J'étais comme au-delà de la dynamique, encore une fois, des moutons et de la critique, parce qu'il y a quand même une critique sociale. Bon, puis on lynche les touristes parce qu'ils viennent briser l'harmonie. Mais je veux dire, justement, c'est comme l'harmonie des alpages est dans son vase clos. C'est un microcosme. Je te jure, je vois, c'est dans les montagnes, je voyais le paradis. Je dis, c'est la dynamique, c'est Dieu, c'est les prophètes, c'est les voilà. Et tout ça nous amène comme ça dans une espèce de réflexion complètement déjanté, complètement éclaté, mais avec, je sais pas, une assise judéo-chrétienne qui me semble intéressante de ce côté-là, en arrière de tout ça.
En fait, c'est quelque chose, en fait, où Fmur, avec le génie des alpages, aurait pu faire quelque chose d'extrêmement classique en matière de bande dessinée. Je veux dire, on a les ingrédients d'une bande dessinée à strip classique. Dans le fond, des personnages animaliers, un personnage humain, une capacité impromptue que tout le monde a de communiquer ensemble, mais... Au-delà de ça, c'est ce que Fmur fait avec son univers. Autant comment il exploite le huis clos, comment il exploite le paysage, où t'en viens à te dire justement que le génie des alpages, c'est pas nécessairement un des personnages, mais plus le lieu lui-même, l'ambiance, l'esprit qu'on détourne, qu'on développe, dans lequel, comme tu disais, on amène des personnages, on amène des situations. C'est la structure aussi, au bout du compte. En fait, je regardais dans l'évolution parce que ce sur quoi on a eu la main, c'est un peu, je dirais pas une intégrale, mais il y a quand même une belle évolution, les trois premiers. Et à un moment donné, on passe d'un gros frier, qu'on éclate. Donc, il y a un jeu un peu sur l'image. Il y a un jeu, on en parlait tantôt dans les multiples interventions et parenthèses du génie des alpages sur les gags qui arrivent un peu à contrepoint. Donc, il y a... On cultive un esprit qu'on peut rattacher à l'univers absurde dans un contexte d'une série qui aurait peut être aussi absurde que Les Boules et Bill, au bout du compte. Donc, c'est vraiment dans le traitement de Fmur qu'on va chercher cet esprit-là.
En fait, c'est intéressant ce que tu amènes là, parce que ça me fait réaliser à quel point ces quatre expériences de lecture totalement différentes qu'on a ce soir.
Oui, tout à fait.
Puis dans le cas de Fmur, ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est la construction en elle-même de la bande dessinée. Donc, tu as le dessin, comme tu le faisais remarquer, Marco, la tendance, puis moi, comme je te disais, me rappelait un peu là, le concombre masqué, là, où il se passe plein d'affaires.
C'est la même époque, c'est Pilote.
Exactement.
C'est né dans Pilote.
Donc, il se passe plein d'affaires dans le décor, puis t'as quelque chose en centrale et tout ça. Et en même temps, c'est un humour qui n'est pas genre tu t'éclates de rire et tout ça. Puis ça m'a fait penser à un truc que j'avais lu sur l'humour des Allemands, où les Allemands préfèrent une situation pétillante qui est comme constamment spéciale que quelque chose où ils vont hurler de rire avec une chute. Puis c'est un peu ça le génie des alpages aussi.
Voilà.
C'est comme tout le temps spécial. Ça fait sourire constamment chaque case. Puis c'est agréable à cause de ça. Puis le style de dessin de Fmur très ouvert, tout ça. En fait, chacun des albums qu'on a eu ce soir avait un style de dessin qui lui appartenait.
Tout à fait. mais pour ce qui est de Fmur, quand même, il reste quand même classique. Là. Il reste dans les cadres un peu de ce qui est la BD franco-belge.
Mais quand même, il éclate un peu. Hein. Tu sais, les bulles par-dessus l'autre, puis ces choses-là.
À un moment donné, même que moi, à la relecture, quand je l'ai relu, là, j'ai fait les premiers albums, je me disais, ah ouais, c'est éclaté. Bon, dans la préface, on nous explique que Fmur gardait ouvert, même si c'est très contrôlé. Le dérapage est contrôlé dans le sens que le gag principal est là. Il tenait ça ouvert. Mais j'ai compris, je pense que c'est au deuxième album où on devrait avoir la page couverture, on ouvre la première page. Et là, tous les personnages passe des commentaires sur le titre de l'album, la page vide, tout est déconstruit. Non, mais on se souvient. Ouais. Alors, là, j'ai fait, ah oui, ben voilà, Deadpool n'a rien inventé.
Ben non.
Et voilà, le quatrième mur est tombé. Ils sont conscients qu'ils sont
dans
une
bande dessinée. Ouais.
Et là, pour moi, ça a été la clé. La clé, ce que Fumur voulait, c'était ça. C'était de voilà, et les personnages sont vivants, ils sont autonomes, et c'est pour ça, d'où l'ouverture des images et du scénario.
Ouais, ouais.
Ce qui rend la chose absurde.
C'est intéressant ce que tu amènes, puisque tu nous rappelles, dans le fond, par rapport à cette BD-là. Et au bout du compte, en fait, je pense que le côté dérapage aussi est présent là-dedans, parce que justement, on se fait un peu monter en bateau par l'auteur qui, et je le redis, parce que il nous amène là où on ne s'y attend pas nécessairement. Les gangs ne vont pas là où on s'y attend. Le lion dans la bergerie qu'on amène, il ne fera pas les affaires que le lion dans la bergerie, tu penses qu'il devrait faire. Donc, on évite sciemment, j'ai l'impression aussi, tout ce qui est prévisible, et dans un contexte où, visiblement, puis je pense que l'élément que tu amènes est intéressant, dans la mesure où l'auteur se laisse un peu guider aussi par ses personnages, se laisse... Il y a un côté peut-être, je dirais pas d'improvisation, parce que ça semble aussi quand même très validé, mais il laisse ses personnages, il laisse aller ses personnages, et ce qui fait aussi que d'une histoire à l'autre, d'un élément à l'autre, il y a des personnages dominants qui vont émerger, qui vont être en surplan, on se retrouve avec les différents niveaux de lecture aussi que tu as abordé tout à l'heure, où on a assez de capacité, de richesse dans les éléments pour avoir plusieurs niveaux de récit qui se jouent simultanément et qui font écho les uns avec les autres. Donc, il y a une belle complexité dans la construction, dans quelque chose qui, encore là, si on lit rapidement, un peu comme la plupart des albums qu'on a lus aujourd'hui d'ailleurs, dans le fond, il y a une apparence de simplicité, entre guillemets, ou de facilité ou d'improvisation, alors que finalement, on se rend compte qu'il y a une réflexion qui est quand même assez riche. Il y a beaucoup de choix qui sont faits, qui sont calculés, et on a quatre œuvres, dans le fond, qui sont en maîtrise de ce qu'ils cherchent à faire par des auteurs qui, visiblement, savaient ce qu'ils voulaient faire.
Ben, ça ramène à un point qu'on a souvent évoqué, on discute souvent, Marco et moi aussi, au travail, parce que souvent les gens se disent, de prime abord, oh, l'humour c'est facile, le drame c'est tough. Alors que c'est complètement le contraire. Je veux dire, faire pleurer les gens, il n'y a rien là, on vit toutes les mêmes drames, Mais qu'est-ce qui fait rire les gens? Qu'est-ce qui va faire que Jérôme va être écrasé de rire, mais que moi, ça me fera pas un pli? Tu sais, je veux dire, et ça peut être pour la même maudite affaire. Et c'est d'autant plus, justement, je pense, délicat du côté de l'humour absurde. Parce que je veux dire, l'humour de base, bon, on a une situation, on se dit, bon, OK, le gars, il va tomber en bas de l'escalier. On sait qu'il va tomber. Ce qui est drôle, c'est de le voir se planter, de le voir culbuter et tout. Mais là, dans l'absurde, ben là, le gars, il tombera pas dans l'escalier. Il va se mettre à voler, il va danser sur une main, il va, tu sais, tu vas répondre à quelque chose d'autre, tu vas briser ton attente. Comme on parlait dans le génie des alpages, on finit pas la blague ou on n'amène pas la blague où le monde pensait qu'on allait, parce que c'est ça l'absurde. Parce qu'il faut être capable de briser ton attente, l'amener ailleurs, et c'est qu'en partie, ce clash-là, ce non-sens-là qui fait que t'es en voiture, là, tu sais.
C'est Harpo Marx qui disait, qui dans sa biographie, raconte qu'à un moment donné, on lui demande d'aller faire une tournée en Russie. Donc, lui, dans les Marx Brothers, c'est celui qui ne parle pas. C'est celui qui a le haut de forme et dans son manteau, il y a un paquet de trucs. Donc, il y a des numéros prêts et tout le monde tripe sur son numéro silencieux et tout. Il débarque en Russie et c'est le flop. Total. Là, on ne parle pas de la Russie à l'époque où il est débarqué, c'était l'URSS. Là, ça... Mais on parle de... Là, ça ne marche pas. Et là, à un moment donné, un écrivain qui le suit et qui le suit dans sa tournée, il fait une tournée, il suit, il dit, on va contextualiser ton sketch. Alors, ils engagent des personnages, docteurs, assistantes et tout, qui vont jaser. Harpo n'a aucune idée de ce qu'il jase. La situation, ce que l'écrivain, il raconte vaguement, mais là, et ils insèrent Harpo avec, il change rien là, Harpo fait son numéro, et alors, l'humour c'est ça, l'absurdité c'est, personne rit aux mêmes places, à même affaire, donc les Russes avaient besoin d'être contextualisés dans l'absurde, ils avaient besoin de se faire rattacher. Ça a été une de ses meilleures tournées. Il paraît que le public, après ça, le public tripait. Et c'est fascinant, ça. C'est vraiment fascinant.
Oui, puis on revient, dans le fond, je pense que les quatre expériences de lecture, je pense que rapidement, c'est il s'agit d'avoir passé les 4 albums pour se rendre compte à quel point ça, ça nous amène aussi dans 4 dimensions qui sont radicalement différentes, avec des émotions qui en ressortent qui sont radicalement différentes, mais avec toujours le même esprit où tu te lances un peu sans... sans savoir exactement où tu vas te retrouver. Peut-être qu'à la limite même, ça aurait été d'autant plus transcendant si on avait réellement pas annoncé le côté absurde au départ dans l'expérience de lecture, parce que tu seras en saumon, mon fils, ben le saumon, je veux dire, on l'attend. À un moment donné, je le sais que tu me lances dans une expérience absurde. Donc, à un moment donné, je m'attends à ce que au-delà de la masturbation, ben il y ait quelque chose qui s'amène là-dedans. Je veux dire, en fait, le génie des alpages, on l'aborde en ayant en tête que pourquoi Marco l'a choisi, il l'a pas choisi au hasard, qu'est-ce que j'ai de la jungle. Ben là, tu lis une page, puis tu comprends. C'est l'esprit. Pour Wood Ring, c'est un peu la même chose. Je veux dire, après 2-3 pages, tu sais que tu t'en vas à quelque part, tu sais pas trop où. Mais à quel point l'expérience de lecture est orientée par le fait qu'on savait à quoi s'attendre, puis qu'on s'attendait justement à cet absurde-là. À quel point, si on avait été pris complètement à contre-pied en s'attendant à une expérience de BD standard, ben à quel point cet absurde-là aurait peut-être décuplé son effet.
Ce qui prend par surprise, c'est la manière dont l'absurde est amené. Parce que là, on a dit 4 expériences de lecture différentes. Il n'y en a pas un qui est pareil dans ce qu'on a lu. Là. Définitivement, je pense que c'est le club de lecture le plus varié qu'on a eu là, en termes d'expérience de lecture. Là. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Là.
Mais je veux pas encore une fois, parce que justement, comme là, on a fait chacun notre choix, notre approche, là, voilà la différence. Parce que justement, encore une fois, c'est notre perception de l'absurde, c'est notre perception de l'humour. Quand je disais, je suis sûr qu'on aurait dit, juste pour le plaisir, il faudra l'essayer dans notre club, dire juste un thème bien ben large et facile, comme, tu sais, amenez-nous 4 drames. Voir si, tu sais, on tombe pas dans 4 drames familiaux ou dans 4 thématiques très proches. Alors que là, comme je disais, l'humour, c'est tellement vaste, c'est tellement subtil et c'est tellement personnel. Ce qui tu sais, puis l'humour noir, puis l'humour jaune.
En fait, dis-moi ce qui te fait rire, je te dirai qui tu es.
Ben, tout à fait, là.
Je pense que l'expérience qu'on... cette expérience-là nouvelle qu'on vient d'aborder, je veux dire, si j'avais choisi les 4 albums, j'aurais viré dans les mêmes trucs, là. Parce que, tu sais, moi, je sais ce qui me fait rire et on aurait jasé. Cette expérience-là d'amener chacun un album par rapport au thème, là, c'est beaucoup plus intéressant. Pas que je veux vendre la formule, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a les 4 visions, là, autres.
Et vous aurez accès, chers auditeurs, auditrices, à ces 4 visions le mois prochain pour le prochain club de lecture. Je rappelle, en fait, donc, on parlait d'humour absurde dans ce club du 24 septembre 2021. Notre sélection de titres, Tu seras un saumon, mon fils, de Shohei Sasaki aux éditions Akata. Poochie Town de Jim Woodring du côté de l'association. Gilles Lajungle de Claude Fournier à La Pastèque. Claude Cloutier, pourquoi je dis toujours Fournier? De Claude Cloutier à La Pastèque et Le génie des alpages de Fmur chez Dargaud. Donc c'était la sélection conjointe sur un thème amené par Marco. Et je remercie mes 4 collègues du club de lecture, Marco Duchesne.
Merci, bonsoir.
Édouard Tremblay.
Comme toujours, un plaisir et quel le fun. Merci les gars de m'avoir repris pour cette saison. Vous ne m'avez pas laissé parquer. Je suis content. Je n'étais pas certain que vous alliez me reprendre, mais merci. Merci.
Et Jérôme Vermette. Bruce
Willis a refusé. Alors on...
ben, je pense qu'on a fait une absurdité, là, par exemple.
Alors merci à vous trois. Merci à tous et toutes d'avoir été à l'écoute. C'était Raymond Poirier au micro et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de La vie en BD.